Bonjour, le Japon à nouveau touché par un séisme un mois jour pour jour après le tremblement de terre du 11 mars. Cette nouvelle réplique de 7,1 sur l'échelle de Richter survient alors que le gouvernement veut élargir la zone d'exclusion autour de Fukushima. Nous devrions retrouver notre envoyé spécial au Japon, Alain Arnaud. Les autorités valaisannes étaient réunies ce matin pour évoquer l'audit rendu public il y a 10 jours sur le réseau Santé Valais, audit de la Fédération hospitalière de France qui montrait du doigt la mauvaise gestion du RSV mais ne remettait pas en cause les soins. Le chef de la santé publique, le conseiller d'État valaisan Maurice Tornet, sera notre invité. Les pro-Bagbo et les pro-Ouattara s'affrontaient toujours ce matin à l'arme lourde tout près de la résidence de Laurent Gbagbo. Ces combats auraient cessé. Vous entendrez le reportage de Grégory Phillips au sud d'Abidjan où c'est à présent une pénurie de médicaments qui menace la population. Il préfère parler de printemps oriental plutôt que de parler de printemps arabe pour évoquer les récentes révolutions en Afrique du Nord. Tarouchi, le directeur artistique et créateur du Festival international du film oriental de Genève, sera notre invité. La 6e édition de ce festival débute aujourd'hui avec pour thème les minorités et la jeunesse. Tarouchi avec nous en fin de journal. Fini le beau temps. Dès demain, cette journée sera encore bien ensoleillée et douce, mais les nuages et la pluie feront leur retour demain avec une chute des températures. Météo d'Edmé Fleury dans une demi-heure.
Au Japon, Natacha Van Kutsem.
Voilà, au Japon, un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter s'est produit ce matin dans le nord-est du pays, provoquant une alerte au tsunami sur les côtes pacifiques qui a ensuite été levée. Le pays demande aussi l'évacuation de 5 nouvelles villes. Alain Arnaud, vous êtes notre envoyé spécial au Japon. Vous vous trouvez le long de la côte nord-est du pays, dans la province d'Iwate, l'une des plus lourdement frappées par les événements survenus il y a un mois jour pour jour.
Oui, effectivement, là je m'éloigne des côtes et de la ville de Kamaishi, une autre de ces cités martyrs, 1315 morts et disparus. Le gouverneur de la province d'Iwate y présidait cet après-midi la cérémonie du souvenir avec 7 minutes de silence à 14h46, heure à laquelle le séisme avait frappé le 11 mars, il y a exactement un mois. Le politicien s'exprimait dans un refuge pour les victimes du tsunami installé dans la halle de gymnastique d'un lycée. Aussi dur l'hiver soit-il, le printemps finira par arriver, a promis le gouverneur devant un parterre d'officiels et de quelques dizaines de réfugiés, beaucoup déjà très âgés. À propos de printemps, c'est vrai que les cerisiers sont en fleurs au Japon et la tradition veut que tout le pays en profite pour faire la fête en plein air. Habituellement, c'est paraît-il l'occasion de tous les excès, notamment d'alcool, mais cette année, le cœur n'y est pas, et encore moins dans ce nord-est rigoureux où rien ne fleurit encore. Pourtant, il faudrait que les Japonais fassent la fête, consomment et boivent du saké, spécialité de cette région sinistrée dont l'économie menace de s'effondrer.
Et puis on l'a dit, Alain Arnaud, la terre a donc à nouveau tremblé ce matin. Est-ce que vous l'avez ressenti dans la région où vous êtes ?
Oui, j'étais en train d'interviewer un professeur dans un lycée technique quand tout s'est mis à bouger. C'est pas seulement cette sorte de mal de mer, cette légère nausée, c'est aussi le son, les parois qui craquent, les baies vitrées qui se tordent, les objets qui vibrent. Mais les deux Japonais avec qui je me trouvais n'ont pas bronché. Ils ont même eu l'air de ne rien remarquer du tout. Le professeur m'a dit plus tard que ce genre de secousse, eh bien, ça faisait partie véritablement du quotidien. Mais pour l'étranger qui débarque, c'est évidemment une habitude plutôt difficile à prendre.
Alain Arnaud, notre envoyé spécial en direct du Japon, et le gouvernement japonais va élargir au-delà de 20 km la zone d'exclusion autour de la centrale de Fukushima Daiichi, très endommagée depuis le séisme et le tsunami d'il y a un mois tout juste jour pour jour. Les autorités veulent ainsi intégrer des villages et des villes qui présentent des niveaux de radiation élevés. Améliorer la gouvernance administrative et médicale, revoir la planification hospitalière du canton en introduisant plus de concentration et améliorer fortement la communication. Le chef de la santé publique valaisanne Maurice Tornet a présenté ce matin sa première analyse de l'audit du réseau Santé Valais rendu public le 30 mars dernier. Et Maurice Tornet, notre invité, bonjour.
Bonjour.
Maurice Tornet, vous avez donc décidé d'agir vite. Vous évoquez souvent des mesures à prendre très très rapidement, sans délai. Vous n'imposez pas toutefois ces mesures. Est-ce que ça signifie que vous faites confiance au système en place pour prendre ces premières mesures comme ceci ?
J'ai toujours dit que je faisais totalement confiance au réseau Santé Valais. Aujourd'hui, la Fédération hospitalière de France, ses spécialistes, ses experts viennent nous dire que, en matière de qualité, vous l'avez relevé en entrée de journal, eh bien, le réseau Santé Valais n'a rien à craindre. Et pour ce qui est de l'organisation, bien entendu, qu'il est logique qu'une autorité écoute les acteurs, écoute les partenaires, écoute les instituts audités et après prenne des décisions.
Alors, comment améliorer les faiblesses de l'organisation administrative et médicale, puisque c'est ça que pointe directement cet audit?
Alors, l'audit dit quand même également qu'il y a une parfaite maîtrise des outils de gestion d'une entreprise aussi complexe que le réseau Santé Valais. Mais c'est vrai, il y a une organisation qui doit être plus centrée sur le médical. Alors, comment le faire? Eh bien, c'est bien entendu en invitant les responsables au niveau du conseil d'administration du réseau Santé Valais, mais aussi au niveau de la direction générale, à agir pour que le médical soit au premier rang de toutes les préoccupations et encore plus qu'aujourd'hui.
Vous venez de le dire, le réseau de Santé Valais est complexe pour ses 4200 employés, mais aussi pour la population. Il y a un problème de communication qui a été également pointé du doigt dans cet audit. Vous vous apprêtez d'ailleurs à publier en ligne l'audit et ce qu'il concerne. C'est une forme de transparence pour la population?
Alors c'est une transparence bien entendu pour l'ensemble de la population valaisanne, mais c'est aussi le signe d'une reconnaissance vis-à-vis de cet engagement impressionnant que les 4200 employés du réseau Santé Valais font œuvre chaque jour, 24 heures sur 24, dans des conditions dont chacun sait la difficulté qu'il y a et que l'émotionnel dans ces circonstances-là peut prendre parfois le dessus. Eh bien oui, c'est une manière aussi de manifester ma reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la santé en Valais.
Avez-vous le sentiment qu'il y a, par rapport au RSV aujourd'hui, un manque de confiance qui s'est installé et donc une volonté vraiment de rassurer en premier?
Alors, je ne sais pas s'il y a un manque de confiance qui s'est véritablement installé. L'enquête de satisfaction vis-à-vis de la population n'a pas connu du tout de succès, malgré de très nombreux appels. Donc, on pourrait voir là une certaine indifférence. En tout cas, c'est possible d'avoir une analyse qui va dans ce sens-là. Pour le reste, je pense que effectivement, il y a aujourd'hui un élément qui est essentiel et qui nous permet véritablement de rassurer la population valaisanne quant à la qualité. C'est ce qui était au départ de la polémique et aujourd'hui j'ai toutes les informations nécessaires rassurantes faites par des spécialistes indépendants de haut niveau reconnus internationalement et je pense qu'effectivement ces éléments pourront rassurer véritablement la population valaisanne pour autant que ce soit nécessaire bien entendu.
Merci Maurice Tornet, chef de la santé publique valaisanne, d'avoir répondu positivement à l'invitation de Claude Défago. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
Le groupe Schultes passe en main suédoise. Le fabricant zurichois de lave-linge, lave-vaisselle et de pompes à chaleur occupe un millier d'employés dans 19 pays européens, dont un tiers en Suisse. Selon l'offre publique d'achat amicale lancée ce matin aux actionnaires, Schultes passera sous le contrôle du groupe suédois Nibe d'ici juillet. Nibe, c'est un grand fabricant de pompes à chaleur en Scandinavie et en Pologne, mais ce sont les lave-linges qui ont fait toute la réputation de Schultes. Frédéric Blassel.
166 ans d'histoire qui remontent à un plombier zingueur, Kaspar Schultes. Il s'installe en 1845 à Zurich, mais ça n'est qu'en 1904 que son fils cadet, Adolf Schultes, fera du patronyme familial un nom de marque. Schultes, synonyme du premier lave-linge à usage domestique. En 1917, l'essor de l'entreprise est tel qu'elle quitte la ville de Zurich pour s'installer dans son Oberland à Wolfhausen, en amont de Rapperswil. Schultes, pour ceux qui s'en souviennent, ce sont les premières machines à laver le linge programmées à l'aide de cartes perforé, une invention qui remonte à 1949. Schultes est aussi la première à faire entrer une puce dans ses machines en 1978, un microprocesseur qui gère les programmes de lavage. Autant de progrès pour les ménages, mais aussi pour les collectivités auxquelles Schultes vend des installations industrielles. Entre-temps, le groupe zurichois a aussi fait son entrée sur les marchés de la fabrication du froid et des pompes à chaleur, un secteur qui lui a cependant moins réussi ces dernières années. Auteur de l'offre de rachat des actions Schultes, le groupe suédois Nibe est précisément spécialiste des pompes à chaleur, bien implantée en Scandinavie et en Pologne.
Et précisons que le groupe suédois Nibé contrôle déjà près d'un tiers des actions de Schultes. À Genève, on reparle de Traversée du Lac, un projet cher à Marc Müller, le président libéral du Conseil d'État. Un Conseil d'État genevois qui juge le projet de traversée crédible. Un crédit d'étude de 3,5 millions francs a été voté. C'est désormais vers Berne que Genève se tourne, Pierre-Antoine Préty.
Oui, Berne, sans qui le financement de ce projet, estimé entre 3 et 4 milliards de francs, paraît bien difficile. En effet, Genève est déjà considérée comme un goulet d'étranglement contre lequel il faut remédier. La Confédération a prévu 1,16 milliard pour élargir l'autoroute de contournement actuelle. Mais le canton de Genève souhaiterait récupérer cet argent pour sa traversée du lac. Marc Müller a jusqu'à la fin de l'année pour convaincre l'Office fédéral des routes. Le serpent de mer ressort donc la tête du lac. C'est un épisode supplémentaire d'un feuilleton séculaire. Le premier projet de traversée date de 1896. Les bouchons, eux, existent au pont du Mont-Blanc depuis les années 30 et les citoyens ont clairement exprimé leur volonté en 1988. Le Conseil d'État remet donc l'ouvrage sur le tapis. L'objectif est de réduire d'un tiers la circulation au centre-ville en 2030. Outre l'indispensable lobbying fédéral, il subsiste une question cruciale, celle du choix entre un pont ou un tunnel. Selon le Conseil d'État, le premier coûterait 3,1 milliards. Le second 3,7. Les deux projets relieraient le Vengeron sur la rive droite à la pointe à la Bise avant d'être accordés au réseau suisse et français.
Pierre-Antoine Préty en direct de Genève. À Bellinzone, le procès très attendu du banquier privé zurichois Oskar Hollenweger a débuté ce matin, 8 ans après le début de cette retentissante enquête. La parole revient enfin au juge du tribunal pénal fédéral et c'est bien sûr le rôle du baron de la drogue colombien dit Ramos qui était d'emblée au cœur des discussions, Nicole de la Pietra.
Oui, Ramos, l'ancien trafiquant de drogue qui avait été embauché par le ministère public de la Confédération pour un cachet de plus de 250 000 francs dans le but de coincer l'accusé en flagrant délit de blanchiment d'argent. Ramos aussi est un volet de l'enquête que le MPC veut éviter, préférant que la Cour se cantonne au chef d'accusation en relation avec les anciennes caisses noires du groupe français Alstom. Mais c'était sans compter avec l'intervention de l'avocat de la défense, le ténor du barreau zurichois, Loren Cerny, qui a requis une énième fois que les sulfureux procès-verbaux prouvant l'implication du caïd colombien soient mis à disposition des juges, mais sans succès. Et ce matin, c'est un Oskar Hollenweger très différent des deux seuls clichés que la presse alémanique a montré de lui ces dernières années, qui est apparu au banc des accusés. Un homme qui a tout de suite rejeté l'ensemble des griefs de corruption, blanchiment et faux dans les documents qui lui sont reprochés en marge de cette affaire et qui avait mis fin à la carrière de magistrat du procureur général de la Confédération Valentin Rochacher et pour ses méthodes est largement contribué à l'éviction de Christophe Blocher, alors ministre de la Justice.
Le Conseil national entre en session spéciale pour une semaine dès cet après-midi. Une session de rattrapage en quelque sorte qui doit permettre aux parlementaires de traiter les objets qui n'ont pas pu l'être durant les précédentes sessions. 1300 interpellations ou postulats s'accumulent actuellement sur les pupitres des services du Parlement, Christian Favre.
Oui, le chiffre est impressionnant. Il illustre à quel point l'agenda politique s'est alourdi depuis une dizaine d'années. Et puis aussi la difficulté pour le Parlement de traiter tous ces objets durant les 4 sessions de 3 semaines tenues chaque année. Notons que sur les 1300 objets en attente, les services du Parlement nous ont confirmé tout à l'heure qu'au moins 200 vont tout simplement passer à la poubelle, les délais de traitement étant arrivés à échéance. Depuis le début de la législature en 2007, c'est la 3e fois que le Conseil national est convoqué pour une session spéciale. Le Conseil des États, lui, en a fait une, c'était en août 2009.
Et quels seront les thèmes clés de cette session spéciale nationale ?
Eh bien, on peut en souligner 3. Tout d'abord, dès demain, la loi sur la prévention. Les débats s'annoncent animés. La droite ne veut pas de nouvelles instances de prévention, vécues comme des bâtons dans les roues des entreprises, par exemple dans le milieu viticole. Ensuite, mercredi, premier débat sur l'initiative populaire de l'ASIN, l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, qui veut soumettre au référendum obligatoire tous les traités internationaux signé par la Suisse. Enfin, il se sera le gros morceau de cette session, la réforme des entreprises 2, acceptée en votation populaire en 2008. Or, le Conseil fédéral n'aurait pas informé correctement sur les pertes fiscales pour les collectivités. Il avait parlé de 83 millions. Il s'avère aujourd'hui que le manque à gagner va se chiffrer en milliards. La ministre des Finances, Evelyne Wilmer-Schlumpf, l'a confirmé en mars, la perte pour 2011 va atteindre 1,3 milliard de francs. Peut-on revenir en arrière, c'est-à-dire revoter, sans mettre en danger la sécurité du droit? Ce sera un des enjeux clés de ce débat à suivre dès demain sous la coupole.
Et sur cet objet, la conseillère nationale socialiste bernoise Margret Kinnernellen a porté plainte devant le tribunal fédéral contre le Conseil fédéral. Elle l'accuse d'avoir agi en connaissance de cause et donc d'avoir trompé le peuple. Demain, le journal du matin s'arrête sur cette thématique. Le président du PS, Christian Levrat, sera l'invité de la rédaction dès 7h35. À Abidjan, les combats qui se poursuivent font craindre un désastre sanitaire pour les 4 millions d'habitants de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Il y a désormais pénurie de médicaments et de fréquentes coupures d'eau. La population reste enfermée chez elle en raison des affrontements entre forces pro-Ouattara et pro-Bagbo. Des affrontements qui ont déjà fait de nombreux blessés. Reportage de l'envoyé spécial de Radio France, Grégory Phillips, dans un hôpital du quartier de Markori au sud d'Abidjan.
Depuis bientôt deux semaines, les médecins de cette petite clinique privée du quartier qu'on appelle le Petit Beyrouth, ici à Abidjan, n'acceptent plus que les urgences.
On reçoit des malades, des femmes enceintes, des blessés par balles. En général, ce sont des balles perdues et c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui étaient en voiture, sur des barrages. On a forcé les barrages, on a tiré dessus.
Quand on voit les dégâts au niveau des os, c'est des blessures de guerre, oui, avec des armes lourdes.
Dans la salle d'attente, deux femmes, des Libanaises, l'une d'elles n'arrête pas de pleurer.
La dame qui est juste ici, c'est son frère, qui en traversant le pont avant-hier, a reçu des balles dans la tête. Deux dans la tête, une dans le thorax. Et il était dans le coma, on a pu l'opérer, on a pu le soigner. Là, il est en salle de réanimation pour le réveil et la suite du traitement.
Tu roules en voiture, ils peuvent tirer dessus, et tu n'es pas en sécurité. Surtout les grosses voitures.
Comme tous les hôpitaux d'Abidjan, la petite clinique privée connaît une pénurie de médicaments. Depuis que les combats ont gagné la capitale économique, il n'y a pas eu de livraison.
Au départ, on avait un stock de médicaments, on avait un petit peu prévu. Mais maintenant, le stock de médicaments est épuisé. On se sert dans des pharmacies de garde qui, elles-mêmes, sont épuisées.
Même le matériel d'orthopédie, on n'en a plus. Hein.
Ouais, après, l'orthopédie, c'est un petit peu important parce qu'on a des blessés par balles qui viennent.
Les diabétiques et tout ça, on n'a plus rien pour eux.
À part les médicaments, il y a les films de suture, il y a des produits d'urgence quoi, qu'on a besoin pour faire du sérum. Les fils de suture, essentiellement, on en manque, des compresses, des choses essentielles.
J'ai une clinique aussi au plateau et on a évacué nos derniers malades. On a eu des décès parce qu'il y avait un manque de médicaments, manque d'eau, manque de nourriture. Donc la situation est très grave.
En salle de réanimation, il y a aussi des combattants.
On ne sait pas si c'est force pour Ouattara, les forces pour Bagbo, on ne sait pas. Actuellement, on est dans un flou complet.
Et à l'étage, du côté de la maternité, plusieurs femmes qui ont accouché prématurément, effrayées par la violence des combats de ces derniers jours.
Le reportage de Grégory Phillips, l'envoyé spécial de Radio France en Côte d'Ivoire. Une délégation de médiateurs africains est arrivée ce matin à Benghazi, fief des rebelles, au lendemain d'entretien à Tripoli avec le colonel Muammar Kadhafi pour tenter de négocier un cessez-le-feu en Libye. Les rebelles libyens, eux, ont affirmé aujourd'hui qu'avant tout cessez-le-feu, les troupes gouvernementales devaient se retirer de la rue et la liberté d'expression devait être respectée. Nos dossiers sur toute l'actualité internationale sont en ligne sur rsrinfo.ch.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
2011 est l'année de l'éducation au Pakistan. Pour souligner cette nécessité, le Premier ministre Yousuf Raza Jilali a décrété l'état d'urgence de l'éducation dans le pays. Un rapport rédigé par des parlementaires et des membres de la société civile publié récemment dresse une situation catastrophique d'un secteur qui n'a jamais été la priorité des gouvernants. À titre d'exemple, un enfant sur 10 non scolarisé dans le monde vit au Pakistan. Reportage à Islamabad de Nadia Bletri.
Devant l'école primaire de garçons de Sohan, une ville située à la périphérie de la capitale, quelques enfants en uniforme discutent. Sur 6, 2 seulement sont capables de lire. Iqbal, 8 ans, qui vient de passer 2 ans sur les bancs de l'école, ne sait pas lire une phrase. C'est le cas de 50% des enfants âgés de 6 à 16 ans scolarisés au Pakistan. Quand on demande à Iqbal ce qu'il apprend à l'école, voilà sa réponse.
J'apprends l'ourdou, les maths, les sciences, et je ne sais pas encore lire.
Un rapport édifiant rédigé par des parlementaires pakistanais et des membres de la société civile dresse un tableau très alarmant de l'état de l'éducation au Pakistan. Shehnaz Wazir Ali, une parlementaire de la majorité et rédactrice du rapport, veut alerter l'opinion sur l'urgence de la situation.
Des millions d'enfants ne vont pas à l'école. 7 millions d'enfants en âge d'être à l'école primaire n'y sont plus. 3 millions n'y ont jamais mis les pieds. Si on met tout bout à bout, ce sont 23 millions d'enfants qui sont privés d'école au Pakistan. Des pays plus pauvres que nous vont pourtant y arriver. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de choix.
Le Pakistan ne consacre qu'1,8% de son budget national à l'éducation. Partout dans le pays, les écoles publiques sont délabrées. Il n'y a parfois ni électricité, ni toilettes, ni tables, ni chaises. Quant à la formation des enseignants, elle est totalement inadaptée. Dans l'école primaire de Sohan, qui ne compte ni cours ni préaux, 4 instituteurs sur 12 sont absents aujourd'hui. Mohamed Massoud Patel, un autre instituteur, déplore les conditions dans lesquelles il exerce son métier.
Le plus gros problème dans cette école, c'est qu'on a des locaux tout petits. On n'a que 6 toutes petites pièces. Dans chaque pièce, on doit faire tenir environ 53 enfants. Il n'y a pas de ventilation et parfois les élèves suffoquent.
Seuls 50% des enfants en âge d'aller à l'école primaire y sont inscrits. Pourtant, la demande des parents est très forte dans tout le pays, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Mais l'école ne remplit pas son rôle. Et selon Shehnaz Wazir Ali, le manque d'éducation risque de nourrir l'extrémisme.
Je pense que le manque d'éducation nourrit les frustrations. Sans éducation, on ne trouve pas de travail, on n'a pas de salaire conséquent. Quand les gens n'ont pas de diplôme, ils trouvent beaucoup plus difficilement des emplois et forcément la colère et la rancœur peuvent prendre différentes formes, en particulier la radicalisation.
L'armée, qui a longtemps dirigé le pays et continue d'y occuper la première place, revendique une grande part du budget pour se protéger contre l'ennemi indien. Aujourd'hui, le pays paie ses choix politiques, mais personne, au-delà du discours, ne semble véritablement prendre conscience de l'urgence de la situation. Nadia Blétry, Radio Suisse Romande, Islamabad.
À Zurich, c'est aujourd'hui le Sechselhäuten, la célèbre parade des corporations de la ville, une tradition qui remonte au XVe siècle et qui marque la fin de l'hiver avec la mise à mort du bug, le bonhomme d'hiver. Mais c'est surtout l'occasion pour les notables zurichois de défiler dans les rues du centre-ville, un privilège jusque-là réservé aux corporations masculines. Mais comme quoi tout change, pour la première fois, une société de femmes aura droit aux honneurs. Delphine Gendre.
Ça fait 22 ans que la société du Fraumünster participe de loin au cortège, mais jusqu'à l'année dernière, elle devait emprunter un autre tracé que celui des messieurs ou alors défiler une demi-heure avant les vraies corporations, celles des hommes. Cette année, le comité du Sechselhäuten a fait une exception. Il a invité ces dames à défiler en deuxième position du cortège. Un honneur, mais peut-être de courte durée. Regula Zweifel, présidente de la corporation féminine.
Nous ne savons pas si on va de nouveau être intégré dans le cortège de 2012, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont voté contre la participation des femmes.
Mais pourquoi autant d'hommes encore aujourd'hui, en 2011, ne veulent pas que les femmes défilent dans ce cortège traditionnel ?
Écoutez, moi je ne comprends pas non plus. C'est 40 ans après le vote, droit de vote des femmes et c'est toujours encore cette barrière. Je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi.
Pourtant, les femmes ont un rôle bien précis, couvrir leurs hommes de fleurs tout au long du parcours, un rôle qui sera inversé cette fois-ci.
J'ai un mari et j'ai deux fils, et pour eux, c'est clair qu'ils vont m'apporter des fleurs. Ce sont les hommes qui vont acheter les fleurs et les apportent à la maison à la femme, alors ils peuvent faire ça aussi pendant le cortège.
Donc ça ne devrait pas choquer les spectateurs.
Non, je pense pas. Non, ça ne va pas choquer. Au contraire, on va avoir beaucoup de fleurs cette année, ça, on le sait déjà.
D'ailleurs, les hommes aussi doivent passer par une sélection drastique pour espérer faire partie d'une corporation. Le privilège de défiler n'est pas donné à n'importe qui. Il y a bien sûr les invités d'honneur, des grands patrons, des personnalités médiatiques et des hommes politiques. Christophe Plorer est un habitué. Mais pour se faire accepter comme membre à part entière d'une corporation, il faut montrer patte blanche. Le conseiller national Filippo Leutenegger vient d'essuyer un deuxième refus au motif qu'il a participé dans sa jeunesse à des manifestations anti-nucléaires.
Et début des festivités à Zurich dès 13h30. L'invité surprise du Paléo Festival de Nyon se nomme Amy Winehouse. La chanteuse britannique fera un passage par la plaine de Laas le samedi 23 juillet, ont annoncé ce matin les organisateurs du Paléo.
Infotrafic RSR.
En ville de Payerne, de l'huile a été répandue sur la chaussée entre le giratoire du Goula et le giratoire de Nepra. Faites preuve de prudence dans ce secteur. sixième édition dès aujourd'hui du Festival international du film oriental de Genève, le FIFOG. Le thème cette année, l'Orient dans tous ses états, avec la projection de films tunisiens ou égyptiens par exemple. Son directeur artistique et créateur, Tahrouchi, est avec nous en direct de Genève. Tahrouchi, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes d'origine algérienne, Tahrouchi. Vous avez un petit peu, j'imagine, suivi les événements en Égypte, en Tunisie, en Libye, plus récemment la Syrie ou le Yémen. Et l'appellation printemps arabe, elle vous fait bondir. Vous parlez plutôt d'appellation printemps oriental, j'ai cru lire. Pourquoi cette appellation printemps arabe ne vous convient pas?
Je dirais que mes références sont sociologiques, linguistiques, le terrain, tout simplement.
Donc vous parleriez de printemps oriental, vous?
Voilà, je dirais que le mot conviendrait mieux que de dire que c'est un printemps arabe ou musulman.
Tahrouchi, est-ce que ces révolutions ont eu une influence sur cette sixième édition? Parce que c'est sûr que beaucoup de gens, évidemment, se sont intéressés ou tournés vers ces pays qu'ils connaissaient des fois pas forcément très bien. Vous pensez que ça aura une influence sur votre festival?
Oui, clairement, oui. Il y a une influence directe déjà dans la préparation, parce que nous étions appelés à communiquer avec des gens qui sont en pleine révolution. Donc cela n'a pas été facile, et en même temps enrichissant, parce que chacun est poussé jusqu'à ses derniers retranchements. Donc nous sommes contents de l'avoir finalisé. Du point de vue aussi médiatique, il y a un intérêt parce que le public et les lecteurs souhaitent avoir un nouveau regard, celui des artistes. Et du point de vue aussi des ressortissants de ces pays, je crois qu'il y a aussi envie, besoin, volonté de partager cet espace.
Et puis
qu'ils reconnaissent finalement.
Et puis qu'on parle d'eux aussi de manière justement culturelle et non pas toujours de crise en fait.
Absolument. Enfin, il y a des films qui parlent de crise,
oui.
Mais le regard est éclaté. Il n'y a pas seulement la crise. On a des films qui sont des comédies. Je cite par exemple Yanoussak, qui est un film suisse-liban, qui n'a rien à voir de prime abord avec la crise. Nous tenons à montrer un Orient diversifié, avec ses joies, ses douleurs, ses peines et ses combats quotidiens.
D'ailleurs, au FIFOG, vous avez toujours un peu montré des films aussi qui montraient des pays comme ceux que l'on a cités avant, un petit peu au bord de l'explosion. Vous aviez l'impression que le cinéma peut-être était un petit peu en avance sur les crises qu'on voit aujourd'hui?
Oui, je crois que l'artiste en général, hein, on peut citer des exemples, même dans la littérature française, un Baudelaire ou ses concitoyens de l'époque étaient en avance par rapport à leur société. En ce qui concerne le cinéma d'Orient, pas seulement le cinéma, puisque la littérature aussi, on trouve un espace de contestation et de subversion. Souvent, malgré une censure qui veille, certaines choses échappent. Je peux faire un comparatif avec le cinéma américain. Le code high sévissait, mais les cinéastes rivalisaient d'ingéniosité pour faire passer des messages.
Oui, donc la culture comme lieu d'expression, quoi, en fait.
Hein. Voilà.
Vous qui suivez quand même un peu la crise de par vos origines, mais aussi de par la manifestation que vous organisez, si on prend l'exemple de la Libye, on évoque des fois le cinéma libyen. Vous pensez qu'il y aura un autre cinéma après Kadhafi?
Je crois, j'en connais pas mal de cinéastes, de jeunes cinéastes qui font des films à l'étranger et ils sont ils ne sont pas bien sûr nombreux, et le fait qu'on n'ait jamais montré de films libyens, c'est aussi révélateur d'une situation. Il n'y a pas de cinéma en Libye, mis à part les deux grands films qui étaient produits pour des raisons idéologiques par le colonel Kadhafi. Je pense au Messager ou le film Omar Mortal qui était financé par Kadhafi. Et ça faisait des moyens de propagation de son idéologie. Sur le terrain, on n'a pas de cinéma, encore moins un cinéma indépendant.
Et peut-être qu'après cette crise passée, peut-être un jour, on verra le cinéma libyen sur les écrans suisses, on l'espère. Je vous remercie, Tahrouchi. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur artistique, fondateur donc du FIFOG, le Festival international du film oriental de Genève. Ça débute aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. Bon festival à vous, Tahrouchi. Bonne journée.
Merci.
Un mot encore de la bourse à la mi-journée. L'indice SMI est en baisse de 0,1%, 6451 points. Voici les prévisions météo, elles sont aujourd'hui signées Edmé Fleury.
L'anticyclone qui a généré le temps estival de ces derniers jours influencera jusqu'à ce soir le temps de nos régions. Cet après-midi, les températures n'auront rien à envier à celles de ce week-end, avec un maximum en pleine de 23 degrés, voire 25 en Valais. Le soleil encore généreux se voilera en fin de journée. Demain matin, la Suisse romande sera traversée par une perturbation peu active, avec quelques précipitations jusque dans l'après-midi le long des Préalpes, du Jura, des Alpes bernoises et du Chablais. Une à deux gouttes tomberont ici ou là en pleine. Sur le plateau, le soleil devrait percer la nébulosité dès la mi-journée. Les températures perdront de la hauteur et retrouveront des valeurs plus saisonnières avec au minimum 10 degrés en pleine et au maximum 15 degrés, 17 en Valais. La limite des chutes de neige passera de 2000 mètres à 1000 mètres d'altitude. La journée de mercredi devrait voir le retour du soleil, mais le ciel se couvrira en soirée. Il fera au maximum 14 degrés en pleine.
La météo avec alloboisson.ch 0848 444 111.
Fin de ce journal de 12h30 du lundi 11 avril. Merci de votre attention, de votre fidélité à toutes les équipes qui m'ont aidé à le préparer et à la réalisation technique. Demain, dans le journal de 12h30, nous recevrons le professeur Antoine Geisbühler, médecin-chef du service de cybersanté et de télémédecine des hôpitaux universitaires de Genève, pour un colloque sur la cybersanté à l'EPFL. Excellent après-midi sur la première, il est 13h.